l'évangile de Luc au chapitre 16. On est arrivé dans ce chapitre qui nous parle de l'argent. Et l'image qui est projetée ici est un cimetière. Et le texte de ce matin va nous permettre de visiter un cimetière, au-delà du cimetière, au-delà de la tombe. Luc chapitre 16, on va lire à partir du verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, « souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Tout le chapitre a pour objet l'argent. On a vu ça déjà la dernière fois dans le début de du chapitre avec cette parabole de l'économe infidèle. Et cette parabole de l'économe infidèle adressée aux disciples provoqua une réaction des pharisiens qui écoutaient tout cela. Aimant l'argent, les pharisiens étaient irrités par la conclusion. La conclusion de la parabole précédente, c'est le verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou les richesses. » Ils pensaient au contraire, eux, les pharisiens, que leur religion et leur richesse faisaient d'eux des hommes particulièrement approuvés de Dieu et aptes à le servir. Aussi, ils se moquent de Jésus. Ils se moquent de lui. Ils se moquent probablement de sa pauvreté et de celle de ses disciples. Mais Dieu connaît leur cœur. Et ce qui est estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Je crois que le verset 15 est le verset clé de tout le passage. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors Jésus va raconter la parabole de l'homme riche et de Lazare. Le but de cette parabole, c'est de montrer que le fait d'être riche et religieux ne signifiait pas qu'on était juste et en route pour le ciel. Le personnage principal de la parabole, c'est l'homme riche. Il symbolise les pharisiens. Lazare, lui, ne dit strictement rien dans tout le passage. Dans ce passage, Jésus lève le voile sur ce qui se passe après la mort. Il est clair ici qu'il y a deux destinées totalement distinctes et qu'on ne peut pas passer de l'une vers l'autre. Alors se tromper sur sa destination éternelle ou sa destinée éternelle est l'erreur la plus lourde qu'un homme puisse faire. Je vous propose ce matin de regarder trois points. D'abord, il passe, c'est l'homme riche, passe pour juste et il est abominable devant Dieu. On verra ensuite que Lazare passe pour abominable et qu'il est devant les hommes et qu'il est juste devant Dieu. Et ensuite, on verra que l'homme riche veut un miracle et que Dieu lui donne un message. Il passe pour juste devant les hommes, et pourtant il est abominable devant Dieu. Il s'agit ici de l'homme riche. Un homme riche. Jésus le décrit comme un homme vêtu de pourpre. Le pourpre, c'est cette couleur violette. Et elle était obtenue par un colorant qui était extrait d'une certaine espèce de mollusque. Il fallait extraire une petite sécrétion qui était dans une glande à la tête du mollusque. Et donc chaque mollusque donnant une infime quantité de colorant, il fallait une quantité de mollusques pour teinter des vêtements, et puis il fallait une quantité de travail hallucinante. De sorte que le colorant pourpre était extrêmement cher et qu'un vêtement de pourpre était porté quasiment uniquement par des rois. D'ailleurs, vous vous souvenez dans Esther, lorsque le roi Assuérus veut élever Mardoché pour le remercier de ce qu'il a accompli pour lui, il le revêt d'un vêtement de pourpre et de fin lin. Ça, c'était les vêtements royaux. C'était la position des rois. Le fin lin était fait de byssus qui coûte très cher. Il était aussi délicat, doux. L'homme riche, il est dit ici qu'il menait chaque jour. Vous savez, nous, on a parfois des jours de fête. Mais lui, c'était tous les jours. Il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Et l'expression brillante se trouve qu'ici, dans tout le Nouveau Testament, c'est d'une façon splendide, magnifiquement, somptueuse. Et Jésus force le trait ici. Il décrit un homme qui vit comme le festival de Cannes. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images. Avec tout l'apparat des vêtements, les mets les plus fins, le luxe, sur le tapis rouge, tout le monde aurait rêvé de poser avec lui. Sauf que pour lui, le festival, c'est tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Et puis c'est un homme religieux. C'est un juif. Il appelle Abraham son père. À chaque fois qu'il s'adresse à Abraham, il dit « Père Abraham !» Mais je suis juif. Je suis circoncis. Je suis un descendant d'Abraham. Je ne suis pas comme le commun des païens. Non, je suis juif. Et puis, il a Moïse et les prophètes comme ses frères d'ailleurs. C'est-à-dire, il possède une Bible. Vous voyez le genre de personnage que c'est? C'est un religieux. On pourrait dire, peut-être, si on mettait ça à notre sauce, quelqu'un de... Non, mais moi, je suis protestant, vous voyez. je descends des Huguenots. Non, mais moi, je viens de la Réforme, vous voyez. J'ai une Bible, 1744, une des premières traductions en français. Elle m'a été même offerte par le pasteur, machin. Superbe. Et en fait, cet homme ici, il met toute son espérance dans ce qu'il est. Un homme riche et un homme religieux. Et pourtant, même s'il passe pour juste aux yeux des hommes, il est en fait abominable devant Dieu. Il n'est pas décrit beaucoup de péché chez cet homme. On ne parle pas d'immoralité flagrante, d'abus. Simplement, il est abominable. Et il meurt et il se retrouve en enfer. Et pourquoi est-ce qu'il se retrouve en enfer ? Il n'a rien fait pour Lazare qui était à sa porte. Je ne suis pas en train de dire qu'on va en enfer parce qu'on n'accomplit pas des bonnes œuvres. Je suis en train de dire que s'il avait la foi qui sauve, la foi qui justifie, il aurait aussi les œuvres de la foi. La vraie foi nous justifie et la vraie justification nous purifie, nous change, nous transforme. Regardez Luc chapitre 3, verset 8. C'est la prédication de Jean-Baptiste. Et il est dit ici, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il est en train de dire, voilà, vous avez mis toute votre espérance dans le fait que vous êtes des Juifs, que vous êtes descendants d'Abraham. Mais il dit, ça ne peut rien pour vous. Ce qui peut changer vos cœurs, c'est la foi en Jésus-Christ qui va produire une transformation dans vos cœurs. Regardez ce que Paul dit aux Galates. Cette semaine, on a passé 3 ou 4 jours là, dans Galates. Regardez Galates chapitre 5 et le verset 6. Il dit ici, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Seulement la foi qui est agissante par amour. Vous vous rendez compte ? La vraie foi, elle agit par amour. Cet homme, il est abominable parce qu'il est passé chaque jour devant Lazare, qui était couché là à sa porte, mourant de faim. Et il n'a pas levé le petit doigt, il n'a même pas donné les miettes qui tombaient de sa table. Il est abominable, encore plus, parce qu'il pense être accepté sur la base de sa religion et de sa richesse. Et il méprise le seul moyen de salut. En Galates chapitre 5, verset 4, il est dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et c'est ce qui arrive à cet homme. Il pensait trouver sa justification dans la loi. Il la connaissait, il l'avait lue. Peut-être qu'il pratiquait toutes les cérémonies. Mais son cœur n'était pas acquis à Jésus-Christ. En Galates, chapitre 2 et au verset 21, il est dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Paul dit « Si on pouvait être sauvé par la loi, Christ serait mort en vain. » Et quand on cherche son salut dans la loi, dans l'observation de la loi, eh bien nécessairement on méprise Jésus-Christ. Et c'est cela qui nous rend abominables aux yeux de Dieu. Rien ne peut être plus condamnable que cette position-là. C'est mépriser le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a rendu cet homme abominable aux yeux de Dieu. Voyons à présent Lazare qui passe pour abominable devant les hommes et qui est finalement juste devant Dieu. Lazare, il est pauvre, mais alors pauvre. Ce n'est pas qu'il a peu, c'est qu'il n'a rien. Le mot utilisé pour coucher à sa porte, c'est littéralement jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Il est en fait, d'après certains commentateurs, Lazare était atteint d'une forme d'ulcère paralysante. Du coup, on l'aurait comme jeté à la porte du riche et laissé là. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait qu'agoniser, espérer une faveur. Il est couvert d'ulcères, il nous fait penser à Job, couvert d'ulcères, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Dans la pensée des pharisiens, être frappé d'ulcères, c'est la preuve de la disgrâce de Dieu. En plus, les chiens errants, hein, ce n'est pas les petits caniches des mamies d'aujourd'hui, hein, c'est là-bas, les chiens, on ne les caresse pas, on leur jette des cailloux. Et là, c'est ces chiens errants qui viennent lécher ses ulcères. Dans la pensée d'un juif, les chiens, ce sont des animaux impurs. D'ailleurs, pour montrer leur mépris à l'égard des païens, les juifs les appelaient des chiens. Alors que les chiens viennent lécher les ulcères de cet homme, c'est répugnant. C'est-à-dire, ça les dégoûte. À leurs yeux, une telle personne était non seulement impure, mais manifestement rejetée de Dieu. Alors si on regarde les deux personnages, il n'y a pas photo. Qui diriez-vous être béni? Qui diriez-vous être approuvé de Dieu? Lazare, qui est pauvre, malade, seul et affamé, ou cet homme qui est riche, bien portant et entouré d'amis? Dans la pensée des pharisiens auxquels Jésus s'adresse, un homme était béni parce qu'il était riche et bien portant. Je trouve que c'est intéressant, peut-être d'entendre de réécouter nos propres mots. Oh, Dieu m'a béni. M'a béni, m'a donné une bonne santé. Dieu m'a béni. Il m'a donné vraiment une belle maison. Dieu m'a béni, il m'a donné une belle famille. Dieu m'a béni, j'ai un bon salaire. Dieu m'a béni. N'est-ce pas que, quelque part, cette notion-là est tout le temps attachée à nos cœurs, qu'on regarde une personne comme bénie ou pas, en fonction de son salaire, de sa bonne santé? Combien de personnes pensent ainsi aujourd'hui? Il ne s'agit pas de mépriser ces choses-là. On peut reconnaître la grâce de Dieu envers nous. On peut reconnaître sa miséricorde, ses bienfaits à notre égard. Mais sommes-nous vraiment bénis de Dieu à cause de cela? Est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction plus grande? Les deux hommes meurent. Il dit que le pauvre, c'est-à-dire que pour le pauvre, quand il meurt, il dit ici, le pauvre mourut. presque on est soulagé. Il dit, il était temps. Vraiment, on espérait que ça, parce que vraiment pour lui c'était terrible. Il n'y a personne à ses obsèques, il n'a probablement pas de tombe, juste la fosse commune. Il est porté au ciel par des anges parce qu'il n'y a pas un homme pour l'accompagner. Et il est consolé. L'homme riche, lui, a des honneurs, des obsèques, je dirais nationales. Il a sa photo dans le journal, il a les articles, chacun y va de son commentaire. Oh, quel grand homme! Que va-t-on faire de sa fortune? Et il est là en enfer, tourmenté. Le fait qu'un homme riche finisse en enfer et qu'un mendiant vive éternellement aux côtés d'Abraham est insupportable aux yeux des pharisiens. Je crois qu'il s'agit d'une histoire que Jésus invente parce qu'il crée un contraste extraordinaire, propre juste à scandaliser ses auditeurs, afin de les détourner de la menace qui les guette. John MacArthur décrit ce contraste, il dit « Nous avons vu sur la terre un homme pauvre et l'autre riche. Le pauvre devient alors riche, et le riche devient pauvre. Et le pauvre devient plus riche que le riche n'a jamais été. Et le riche devient plus pauvre que le pauvre n'a jamais été. » Nous avions un pauvre rejeté de la maison, il était couché à la porte, et un homme riche à l'intérieur. Puis vient la mort, et le pauvre est à l'intérieur alors que le riche est rejeté. Nous avions un pauvre sans nourriture et un riche avec les mets les plus délicats à profusion. Et maintenant, nous trouvons le pauvre au grand banquet céleste avec Abraham, et le riche n'a même pas une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Nous avions un pauvre qui souffre et un riche qui jouit d'une pleine santé. Et maintenant, nous voyons le riche qui souffre et le pauvre qui est consolé. Nous avions un pauvre homme tourmenté et un riche heureux. Et maintenant, le pauvre est heureux et le riche tourmenté. Nous avions un pauvre comme homme humilié et un riche honoré. Maintenant, le riche est humilié et le pauvre honoré. Mais nous avions aussi un pauvre sans personne autour de lui et un riche qui était bien connu. Et à présent, nous trouvons le pauvre homme qui a un nom et qui est connu d'Abraham et le riche qui n'en a pas. Voyez la chose, Jésus monte cette histoire. C'est un scandale. C'est un scandale pour les pharisiens. Et Jésus montre et raconte, invente cette histoire proprement pour les scandaliser, pour qu'ils réalisent que toute leur justice ne vaut rien à ses yeux. Que toute leur richesse, toute leur observation de la loi n'est qu'une abomination à ses yeux, parce qu'ils méprisent le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait que Lazare est au ciel, au fond? Son nom, Lazare, signifie « Dieu est mon secours ». Dieu est mon secours. Et si le Sauveur donne un nom à ce pauvre, tandis qu'il n'a pas nommé le riche, c'est sans doute avec cette intention. Il voulait indiquer par là que ce Lazare cherchait et trouvait son secours en Dieu. Et qu'au sein de sa misère, il avait mis son espérance en son Sauveur. Comme Job. J'ai repensé à ce passage de Job où, au chapitre 19, Job connaît la même situation que Lazare. Il est moqué. Les enfants lui jettent des pierres. Il était autrefois honoré, mais maintenant les gens lui jettent des pierres. Il est moqué de tous. On se détourne de lui. Et au verset 23, il dit « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. » Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Et voilà ses paroles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Imaginez sa situation. Il a tout perdu, tout. Il n'a plus rien, juste des ulcères qui couvrent tout son corps. Et là, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est magnifique. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et je pense que c'est exactement l'expression de l'état de l'âme de Lazare. Il a mis sa confiance en Dieu. Il est sauvé par la foi en Dieu, son Rédempteur. Il n'a rien pu faire. Il est paralysé. Il n'a rien payé. Il n'a rien pu offrir. Il n'a rien. Sauf la foi dans un Dieu plein de miséricorde et de grâce. Et c'est ce qui fait toute son espérance. J'aime ça. Enfin, l'homme riche veut un miracle. Lorsque le riche réalise sa ruine éternelle, il pense à ses frères. Il en a 5. Et les 5 mènent la même vie que lui précédemment. Et il dit, je trouve ça... Vous avez remarqué, le riche, même mort, il est condescendant à l'égard de Lazare. Et il dit à Lazare de m'envoyer, de venir là jusqu'ici. Est-ce que je suis ton serviteur? Non, mais tu dis à Lazare, et qui trempe ce... Et puis ensuite, il dit, non, tu dis à Lazare, bon, ça suffit, les consolations, maintenant tu le renvoies sur terre pour dire à mes frères. L'idée est bonne. Il se dit, mes frères sont venus si souvent faire la fête chez moi, ils ont vu Lazare couché à ma porte, et puis ils ont vu qu'il était mort, et s'il revient vers eux, ils se repentiront et croiront. C'est évident. Non. Jésus énonce ici une vérité fondamentale, versets 29 à 31. Ils ont Moïse et les prophètes qu'il les écoute. Et dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc il sait ce qu'il n'a pas fait, il ne s'est pas repenti, et il sait ce que ses frères doivent faire, se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Ce passage affirme avec force la pleine suffisance des Écritures pour vaincre l'incrédulité. L'Évangile lui-même est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Étant donné que l'incrédulité est avant tout un problème d'ordre moral, le problème de cœur plutôt qu'intellectuel, aucune preuve ne peut transformer l'incrédulité en foi. En revanche, la parole révélée de Dieu possède en elle-même le pouvoir d'opérer cette transformation. Pierre dit, vous avez été régénérés par la parole vivante. Jacques dit la même chose. Jamais personne n'a été sauvé parce qu'il a vu un miracle. Mais on est sauvé parce qu'on obéit au message de l'Évangile. La suite va nous en donner la preuve. J'ai regardé les différentes chronologies des évangiles. Et l'un des événements qui suit cette parabole se trouve en Jean 11. Un des événements qui suit presque immédiatement dans la chronologie, c'est Jean 11. Et Jean 11 rapporte la résurrection de Lazare. Cette fois-ci, c'est une histoire vraie, celle de son ami, l'ami de Jésus, de Béthanie, un frère de Marthe et de Marie. Il tombe grièvement malade et meurt. Et lorsque Jésus arrive à Béthanie, voilà 4 jours qu'il est déjà mort et enseveli, et il sent déjà. Jésus demande à ce qu'on roule la pierre qui est devant la tombe, et il ordonne aux morts de sortir. Et Lazare ressuscite. Et je crois que c'est une autre raison pour laquelle, dans cette parabole qu'on vient de lire, Jésus a appelé ce pauvre Lazare. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire dans les jours qui suivaient. Ressusciter Lazare. Quelques témoins alors informent les principaux sacrificateurs de la résurrection de Lazare. Et au chapitre 47... Le chapitre 11, donc, dans Jean, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Allons vite rencontrer Lazare pour qu'il nous explique ce qui se passe derrière la tombe, ce qu'il a vécu pendant 4 jours. » Non, absolument pas. Regardez ce qu'ils disent. « Que ferons-nous ? Car cet homme, Jésus, fait beaucoup de miracles. » Verset 53. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir, de faire mourir Jésus. Il a fait les miracles, alors on le fait mourir. Et chapitre 12, verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, on aurait pu imaginer que par la résurrection de Lazare, les sacrificateurs, les pharisiens seraient allés interroger Lazare. Dis-nous, bon, allez, raconte. Qu'est-ce que tu as vu? Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu Dieu? Comment ça fait quand on est mort? Rien. Rien de tout ça. Il est ressuscité, il doit remourir. Il doit remourir. Ce n'est pas parce que les hommes voient un miracle qu'ils croiront pour autant pour être sauvés. Mais c'est l'acceptation du message de l'Évangile. Quand une semaine plus tard, Jésus mourra sur la croix et ressuscitera conformément aux Écritures, les mêmes diront aux soldats « Dites que ses disciples sont venus voler son corps pendant que nous dormions. » Vous voyez la disposition des cœurs ? Dites à ceux qui vous interrogeront que vous avez vu les disciples voler son corps pendant que vous dormiez. Que d'un œil, hein? Que d'un œil. N'importe quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, notre cœur est tellement méchant quand il ne veut pas de Dieu. Même les choses, les preuves les plus flagrantes, la démonstration la plus éclatante n'est pas acceptée. Dieu a un message. Ils ont Moïse et les prophètes. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'est-ce que dit Moïse? J'aimerais citer juste deux versets. L'un en Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deutéronome 6, 5, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il dit, tu dois aimer Dieu plus que l'argent. Tu dois aimer Dieu plus que la santé. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Et puis un autre verset en Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, le verset 18. Il dit, 19-18, je je cite juste la deuxième partie du verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le verset le plus de l'Ancien Testament, le plus cité dans le Nouveau Testament. 9 fois, 9 reprises, le Nouveau Testament rapporte cette parole de Moïse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'ils écoutent. S'ils avaient écouté, ils auraient mis leur confiance en Dieu plutôt que dans leur religion ou dans leur richesse. S'ils avaient écouté Moïse, il aurait pris soin de Lazare. Il l'aurait aimé. Il l'aurait secouru. Et puis il y a les prophètes. Je cite le prophète Jérémie au chapitre 9, verset 23. Jérémie 9, 23, il est dit « Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Voyez la chose, il y a tout dans les prophètes. De ne pas mettre sa confiance dans sa sagesse, de ne pas mettre sa confiance dans sa richesse, de ne pas mettre sa confiance dans toutes ces choses que l'on croit être faire de nous des personnes respectables, mais placer sa confiance, si on a un tant soit peu d'intelligence, en Dieu, notre Sauveur. Et puis il y a les apôtres qui ont parlé. Alors, si l'homme riche n'avait pas les textes de l'apôtre Paul, nous les avons, et je voudrais vous lire juste deux en 1 Timothée chapitre 6. Et au verset 7, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il est dit, les pharisiens auxquels est adressée cette parabole, les pharisiens étaient avares. Ils aimaient l'argent, c'est ça l'avarice, ils aimaient l'argent. Le problème n'est pas d'en posséder, mais d'aimer et de placer son cœur. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, exactement comme l'homme riche. Et au verset 17, Paul dit encore, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Je termine. L'homme riche est en enfer, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il pensait que sa richesse était une preuve de son acceptation par Dieu. Et il a méprisé le Fils de Dieu. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. De même, Lazare n'est pas au ciel parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il a cherché son secours en Dieu. Comment savez-vous que vous êtes approuvé de Dieu? Comment savez-vous que vous êtes approuvé de Dieu? Parce que vous avez obtenu le job? Parce que vous avez réussi l'examen? Parce que vous avez eu l'augmentation? Ou parce que Dieu vous a secouru en Jésus-Christ? La vraie pauvreté, c'est de passer à côté de l'évangile sans s'en saisir. Les pharisiens pensaient que la richesse matérielle d'une personne constituait la bénédiction de Dieu en récompense d'une bonne conduite, de sorte qu'ils pensaient à tort que tout allait bien pour eux. Ils se justifiaient ainsi par leur propre richesse. L'évangile dit que celui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus était le plus riche qui soit. Toutes choses lui appartiennent, lui appartenaient. Il était riche en justice, parfaitement juste et saint. Il était totalement approuvé de son Père. Son Père dit, rend de lui ce témoignage, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il a laissé tout ce qu'il possédait au point de naître dans une étable. Il s'est identifié à notre péché. Il a été fait péché pour nous et il a reçu sur lui la colère de Dieu. Pour que nous qui étions des misérables pécheurs, nous recevions sa parfaite justice. Il a été séparé de Dieu pour que nous soyons acceptés par lui. Il a quitté le ciel pour que nous puissions, nous, y entrer. Qu'est-ce que l'argent, les richesses de ce monde, une bonne réputation, le succès dans nos entreprises ou une bonne santé pourraient ajouter à la justice de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ? Rien. Oui, la pauvreté extrême, c'est de passer à côté de l'évangile sans s'en saisir. Ne restez pas, si c'est votre cas, dans cette terrible position. Prions Dieu.